RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit.
RHDP, PDCI, PPACI, un intense ballet politique en ce moment en Côte d'Ivoire et qui nous occupe dès la une de cette édition. Front commun annoncé dans l'opposition entre le PPACI et le PDCI, tandis que le parti au pouvoir, le RHDP, tient congrès. On appellera Abidjan tout à l'heure. Les autorités de transition du Niger qui annoncent la nationalisation de la Somaïr, l'une des filiales du français Orano, l'un des symboles du rapport de force électrique entre les deux pays. Le rappeur Amron va bien, il est parfaitement lucide, déclaration sur RFI de son avocat qui a pu rendre visite cette semaine à ce militant togolais, interné en psychiatrie après avoir été emmené par des gendarmes. En Guinée, l'impatience et la colère chez les sinistrés de Kaloum. 18 mois après la déflagration du dépôt de carburant, ils ne savent toujours pas où en est l'enquête.
Et puis c'est aujourd'hui la journée internationale des réfugiés, le dossier de ce journal pour mettre des mots derrière les chiffres.
Oh oui, 42 700 000 personnes réfugiées à travers le monde. Et l'histoire dans ce journal d'un homme, il a dû fuir la Côte d'Ivoire, il a dû fuir ensuite le virus Ebola. Aujourd'hui, il se retrouve au Sénégal, presque sans existence légale. Et il est à notre micro dans une dizaine de minutes.
Une forte activité politique ces jours-ci en Côte d'Ivoire, dans l'optique toujours de la présidentielle d'octobre.
Avec d'une part donc le congrès ordinaire aujourd'hui du RHDP, le parti au pouvoir. Nous sommes en direct d'Abidjan, dans une demi-heure, pour en saisir les enjeux. Tandis que les deux principaux partis d'opposition annoncent un front commun. PDCI et PPACI ont signé hier une déclaration commune après plusieurs mois de discussion. Avec des réclamations claires, ils demandent que Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blégoudé ou encore Tidiane Thiam soient réinscrits sur les listes électorales et puissent donc participer à la présidentielle. Actuellement, ces quatre figures sont inéligibles en raison de décisions de justice. Envoyée spéciale permanente, Binta Diagne.
Après plusieurs mois d'échanges, plusieurs cadres du PPACI et du PDCI assistent à la signature d'une déclaration commune. Il s'agit d'un front commun dans lequel les deux partis s'unissent autour de plusieurs causes. Ils exigent l'inclusion des candidats inéligibles et des réformes électorales. Absent du pays depuis 3 mois, Tidiane Thiam, le président du PDCI, suit cet événement en visioconférence. Il souligne l'importance de cette union.
L'acte que nous posons aujourd'hui montre que l'opposition est unie et que nous saurons ensemble préserver la stabilité de notre cher pays, plus et mieux que ceux qui s'entêtent à rester au pouvoir en faisant courir des risques immenses à notre pays et à la sous-région.
L'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, hausse le ton.
Ce n'est pas tenable. Tu ne peux pas supprimer toutes les candidatures. Le PDCI et le PPACI ont aujourd'hui un accord et nous allons continuer la lutte. Aucune lutte n'est désespérée.
Le RHDP rejette ces appels au dialogue qui, s'ils étaient appliqués, seraient de nature à retarder le processus électoral, souligne Kobeno Kwasi Adjoumani, le porte-parole principal du RHDP. Nous n'allons pas tomber dans leur jeu, poursuit ce cadre qui en appelle à la lucidité de l'opposition. Il est encore temps pour ces partis politiques de proposer des candidatures alternatives, conclut ce responsable. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
La Côte d'Ivoire, par ailleurs, où un ancien ministre membre du RHDP, Joël Nguessan, a été placé sous mandat de dépôt hier. La justice lui reproche des propos, je cite, qui jettent le discrédit sur les décisions de justice et l'institution judiciaire dans son ensemble. C'est une interview accordée à un journal en ligne où cet ancien ministre des droits de l'homme s'est dit, je cite encore, convaincu que l'exclusion de certains acteurs politiques aboutira à une crise au plan national. Si demain il y a des troubles dans le pays, disait encore Joël Nguessan, les premiers responsables, ce sont les magistrats. Une violente attaque attribuée à un groupe terroriste hier au Niger, dans la préfecture de Banibangou, région de Tillabéri, le ministère de la Défense de Transition évoque 34 soldats tués, 14 autres blessés, ministère qui affirme aussi que des dizaines de terroristes ont été tués dans la riposte. Le Niger, c'est aussi cette annonce hier par Niamey de la nationalisation de la Somaïr, société devenue l'un des symboles des tensions avec la France. Cette filiale du géant minier Orano, exploitant d'uranium dans le nord du pays. Cela fait déjà 6 mois que, de facto, le groupe français ne contrôlait plus ce site minier, Pierre Firsion.
En décembre dernier, Orano avait acté la perte du contrôle opérationnel de ses trois filiales minières dans le pays. Le gisement d'Imouraren, la mine de Cominac et celle de la Somaïr. Le groupe, qui restait toutefois majoritaire à plus de 60% dans ses filiales, avait alors engagé plusieurs procédures d'arbitrage international contre l'État du Niger. Le mois dernier, Orano s'était dit sans nouvelles du directeur local de la Somaïr après une perquisition dans les bureaux de la société par les forces de sécurité. Lors de cette perquisition, du matériel informatique et des téléphones portable avait été pris selon Orano, qui avait dans la foulée saisi le procureur de la République pour arrestation arbitraire et détention illégale. Hier, les autorités nigériennes ont donc franchi une nouvelle étape. Selon la RTN, l'État du Niger a décidé de nationaliser la Somaïr, je cite, « face au comportement irresponsable, illégal et déloyal d'Orano, société détenue par l'État français, un État ouvertement hostile au Niger ». Fin de citation. Par cette nationalisation, les actions et le patrimoine de la Somaïr sont intégralement transférés en toute propriété à l'État du Niger, a ajouté la télévision nationale, avant de préciser que les détenteurs d'actions bénéficierait d'une indemnité de compensation.
Pierre Firsion. Le rappeur et militant togolais Amron se porte bien, il a tous ses esprits, assure même son avocat.
Maître Célestin Agbogan qui a pu lui rendre visite avant-hier pendant environ une heure, et ce pour la première fois depuis que l'artiste a été emmené par des gendarmes qui s'étaient présentés à son domicile il y a 3 semaines. Amron interné ensuite dans un hôpital psychiatrique. Contre son gré, assure donc son avocat, qui explique que le militant volontiers critique du pouvoir togolais est tout à fait maître de ses moyens.
Nous avons vu Amron qui raisonne, qui parle bien et je dirais même qui est plus lucide que ceux qui ont décidé de l'interner. Et Amron a décrit toute l'histoire relativement à sa mésaventure. Il nous a décrit avec précision les conditions dans lesquelles il a été interpellé ou enlevé, tout le trajet qu'il a parcouru, et il a donné des précisions sur les dates. Amron a été constant dans cette déclaration. Il a même dénoncé des traitements dégradants qui lui ont été infligés au SCRIC. Ce que je voudrais dire, que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui n'est pas malade. Il n'est pas libre de partir parce que le médecin a dit qu'il sera interné pendant environ 1 mois. Et donc, comme le médecin a produit un rapport qu'il a transmis au procureur, le procureur a fait une réquisition relative à son internement pour qu'on le libère, parce que un malade, c'est lui-même qui se propose d'aller à l'hôpital. Surtout que c'est majeur. Sa place est chez lui. À la maison.
Maître Célestin Agbogan, l'avocat d'Amron. 18 décembre 2023, il est minuit passé de quelques minutes, la presqu'île de Kaloum tremble et ses habitants se réveillent en sursaut. Une gigantesque explosion vient de pulvériser le dépôt de carburant du quartier de Koronti. Précisément, nous sommes en plein cœur du centre battant de la capitale guinéenne. Explosion qui fait au moins 25 morts. 20 juin 2025, un an et demi plus tard, où en est l'enquête ? Où sont même les enquêteurs ? Question que posent les sinistrés eux-mêmes qui n'ont pas vu les résultats des investigations annoncées à l'époque. Mamoudou Sifoketore est le président du comité des sinistrés des hydrocarbures de Kaloum.
C'est paradoxal. Le gouvernement a annoncé l'enquête. Au niveau des sinistrés, nous sommes formels, nous réclamons l'enquête comme point de départ de toute issue à la crise. Mais nous n'avons reçu aucun enquêteur ou aucune information. Depuis le 18 décembre, on nous a dit qu'il y aura l'enquête. Aucune communication sur les enquêtes. Et nous-mêmes, nous voulons que ces enquêtes-là aboutissent. Après l'enquête, que les responsabilités soient situées. Ensuite, nous devons être indemnisés parce que c'est la loi qui dit. Après l'explosion, il y a eu un constat du CIE. Et après le constat, l'indemnisation se fait au prorata du préjudice subi. Jusqu'à ce jour, aucune communication sur ça, on n'en parle même pas. Tout ce qui les intéressait, c'est de nous dire, allez à plus de 50 kilomètres, on va reconstruire ici pour nous. Sur divers angles, nous avons été touchés. C'est la psychose quand même qui a accompagné, parce que nous avons été, il faut dire, quelque part, nous avons reçu beaucoup de gaz lacrymogène à chaque fois que nous demandions, à chaque fois que nous réclamons nos droits. Mais nous continuons quand même à réclamer. Et l'enquête, parce qu'il s'agit du plus grave incendie de notre pays, cela ne peut passer inaperçu.
Mamoudou Sifoketore, invité de Sarata Camara dans Afrique Soir hier, entretien en longueur à réécouter sur RFI.fr.
Il y a pratiquement 43 millions de réfugiés dans le monde. Ce 20 juin est une journée qui doit permettre d'attirer un peu l'attention sur leur sort. Et le dossier de ce journal s'y emploie.
Avec une illustration simple mais éloquente, vous allez l'entendre. Nous avons recueilli à Dakar le parcours d'un homme. Il a fui la Côte d'Ivoire pendant les violences électorales, puis quelques années plus tard, il a dû échapper au virus Ebola. Et aujourd'hui, après avoir préservé sa survie 2 fois, il n'est pratiquement plus personne aux yeux de quiconque. Plus vraiment de statut, de papier d'identité, d'existence légale. Le flou total est un parcours que nous raconte notre correspondante Juliette Dubois.
Depuis plusieurs années, Lucas Tokpa vit dans cette petite chambre à Dakar.
La chambre qu'elle a.
Cet Ivoirien de 35 ans a obtenu le statut de réfugié au Libéria en 2011 après la crise ivoirienne. Mais en 2016, Lucas doit quitter son pays d'accueil à cause de l'épidémie d'Ebola. Il se retrouve au Sénégal.
J'ai choisi le Sénégal parce que c'est un pays francophone où je pouvais m'exprimer comme je le fais aujourd'hui. Et un pays CDAO où je pouvais avoir plus de chances, comme je le pensais. Mais malheureusement, arrivé ici, ils m'ont amené encore, malgré tous ces documents qu'ils m'ont donnés, ils m'ont amené à reprendre encore la procédure de statut réfugié.
Au bout de 3 ans, on lui refuse, sous prétexte qu'il ne peut pas avoir le statut de réfugié 2 fois. Il a peur de représailles s'il retourne en Côte d'Ivoire et tous ses papiers et récépissés ont expiré.
Aujourd'hui, je ne possède rien. Même pour le contrôle de la police, je suis toujours pris et je suis obligé de payer de l'argent pour qu'on me libère. Je suis en situation irrégulière, rien comme papier. Je ne peux signer aucun contrat au Sénégal, je ne peux travailler même dans aucune société.
Dans une pochette, il garde précieusement les correspondances qu'il a adressées à différentes autorités.
Tous les ambassadeurs ont été au courant de tous ces trucs-là, où j'ai écrit. Là, ça, c'est l'ambassade du Canada. Ça, c'est audience demandée au procureur.
Pour se faire entendre, Lucas manifeste aussi régulièrement devant les bureaux du HCR à Dakar avec d'autres dans la même situation, espérant qu'un jour, son statut et son histoire seront enfin reconnus. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Face à ce grand vide juridique et légal, ce sont comme souvent des associations et des ONG qui pallient les carences. Caritas, par exemple, qui tient à Dakar le Paris, point d'accueil pour les réfugiés et immigrés. Chaque année, il voit arriver environ 2000 personnes venues de tout le continent. Sœur Joséphine Gonégay en est la responsable.
Normalement, quand tu as le statut, tu devais être prise en charge par le Haut Commissariat des réfugiés, mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc ces réfugiés reviennent encore vers nous. Et l'État ne fait pas de grandes choses pour ces gens-là, à part d'octroyer le statut de réfugié. Mais il n'y a rien qui est organisé pour s'occuper de ces réfugiés qui arrivent. Parce que quand ces gens-là arrivent, qui sont dans les rues, il faut s'occuper d'eux. Et le Sénégal étant dans CDAO qui est reconnu, je pense qu'on pouvait mieux organiser pour prendre en charge cette cible des réfugiés qui arrivent dans notre pays. Ce qui devait être fait surtout, c'est de redonner la dignité à ces personnes. D'abord un logement. La prise en charge sanitaire devait être gratuite. Et à plus de ça, peut-être les aider aussi à être autonomes en les faisant des petits financements comme ce qu'on fait le Paris pour que ces gens-là puissent avoir un peu d'activité.
Sœur Joséphine Gonégay, responsable du Paris à Dakar. Une question plus légère sans doute pour refermer ce journal. A-t-on déjà vu des Américains refuser un match de basket? Eh bien maintenant oui, l'ambassade américaine à Dakar refuse d'accorder un visa pour les États-Unis à 5 joueuses de l'équipe féminine de basket sénégalaise. Elles devaient aller suivre un stage d'entraînement aux États-Unis en vue de l'afro-basket féminin. Le Premier ministre Ousmane Sonko demande l'annulation du stage, Babacar Fall.
C'est Ousmane Sonko en personne qui a demandé à la ministre des Sports d'annuler le stage des Lions du basket aux États-Unis. Le Premier ministre sénégalais est en colère contre Washington. Dans sa réaction, Sonko a ensuite dit que l'équipe va désormais se préparer à Dakar dans un cadre souverain. Il ajoute, je cite, « Nous réaffirmons avec clarté et fermeté notre nouvelle doctrine de coopération, une coopération libre, équilibrée, fondée sur le respect mutuel, ce qui, selon lui, est conforme à la ligne de son parti, le PASTEF. » Sonko, qui, dans la même déclaration, a salué la Chine qui a offert des bourses à des athlètes sénégalais en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. C'est sans doute une première des joueuses de l'équipe nationale de basket qui se voit refuser un visa, déception de toute l'équipe et de son sélectionneur américain Otis Hagley. Une source à l'ambassade des États-Unis à Dakar confie que cela n'a rien à voir avec le travel ban de Donald Trump, mais que les 5 joueuses récalées ne remplissaient pas les conditions d'obtention du visa américain. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Dakar, où il est 6h44.
Merci Edouard.